Ma remarque fait suite à l'émission du jeudi 19 février 2004 sur France 2, l'émission Campus présentée par Guillaume Durand. Monsieur Sylvain Attal, l'auteur du livre Plaît, le nouvel antisémitisme, a eu des propos décevants. En effet, pour illustrer selon lui la montée de l'antisémitisme en France, il a pris comme exemple le rapprochement et les prises de position qu'ont pu avoir lors du Forum social européen certains groupes altermondialistes envers la cause palestinienne. Lorsque monsieur Attal évoque ce sujet, il parle des altermondialistes et non pas de certains ou quelques altermondialistes. Ce qui en fin d'allocution fait croire à l'auditoire que tous les altermondialistes, puisqu'il évoque le mouvement en général, sont antisémites. Je trouve cela grave. En effet, le rapport entre la défense de la cause palestinienne, qui en premier lieu tient à la fin du conflit israélo-palestinien qui a déjà fait tant de victimes, et l'antisémitisme est un parallèle rapide. Et dans le cas où les partisans de cette cause seraient antisémites, ils ne représentent pas la totalité, loin s'en faut, des militants ou sympathisants du mouvement altermondialiste. Pourquoi dans un pays comme la France, berceau des droits de l'homme et symbole de la liberté de penser, où le droit d'expression reste un acquis fondamental, n'est-il pas possible de critiquer, de faire des remarques ou simplement d'être en désaccord avec la politique actuelle du gouvernement de M. Ariel Sharon sans être immédiatement taxé d'antisémite? Faut-il être de confession juive ou avoir la nationalité israélienne pour bénéficier de ce privilège? La réflexion de M. Attal est choquante car l'antisémitisme est effectivement une plaie effroyable et dramatique, surtout dans la France d'aujourd'hui au regard de son histoire. Et comme toutes les notions de cet ordre, il est impératif de les traiter avec prudence et de ne pas faire de trop rapides généralités. Il en va de même pour des qualificatifs fascistes ou staliniens. Ce sont des adjectifs forts de signification. On ne peut pas traiter de fasciste quelqu'un à la légère car ce mot a une signification bien particulière et lourde de conséquences. L'antisémitisme n'est pas un simple racisme, entre guillemets, ce qui serait déjà condamnable, mais la Shoah rend ce terme immensément plus puissant. Un antisémite est un être misérable, ignorant le passé et qui mérite d'être condamné, comme le prévoit la loi française. C'est pour ces raisons qu'il faut utiliser ce mot avec parcimonie, ce n'est pas une banalité. La cause altermondialiste a suffisamment d'opposants pour ne pas en plus être définie comme antisémite. Néanmoins, il est à peu près certain, au regard du nombre croissant de sympathisants, que l'on trouve parmi ses rangs des personnes antisémites. Et cela est très regrettable, mais dans tous les groupes, il y a des brebis galeuses. Or, sous prétexte qu'une affaire de pédophilie a touché un homme d'église ou un professeur, faut-il juger tous les prêtres et le corps enseignant dans sa globalité comme ayant les mêmes comportements abominables? Bien sûr que non. Je dois rappeler que parmi l'élite sociale d'Israël, notamment certains pilotes de chasse de Tsal, ont signé une pétition allant à l'encontre des ordres de leur gouvernement, car ils étaient contre la politique mise en œuvre dans le conflit les opposants aux Palestiniens. Sont-ils antisémites pour autant? Je me trompe peut-être, et cette analyse n'a que peu de valeur car je ne suis ni politologue ni historien spécialiste du Moyen-Orient. Mais je pense qu'il serait temps, à l'heure où Jean-Marie Le Pen et son point détail notoirement antisémite et négationniste, au plus haut point, passent sur toutes les ondes pour des prétextes administratifs de potentielle inéligibilité n'étant qu'un moyen d'utiliser les médias, afin de déverser des torrents de propos xénophobes, de transmettre ses idées d'intolérance et de non-droit à la différence. N'oublions pas de bien distinguer le réel antisémite et les propos antisémites. Le réel antisémitisme qui est indiscutablement une attitude odieuse et indigne de l'espèce humaine. À faire l'amalgame entre la critique d'un système, quel qu'il soit, et le sentiment de haine et de rejet que certains éprouvent envers une catégorie de personnes définie par son caractère ethnique, politique ou religieux, c'est dévaluer les cas réels d'antisémitisme et porter un coup au droit de critiquer. Ce droit à la contestation qui a fait avancer toutes les nations démocratiques, et notamment Israël, et restera à jamais, je l'espère, un acquis. S'il pouvait s'étendre au reste de la planète, cela fera sans doute du bien à tous les peuples qui en sont encore aujourd'hui malheureusement privés. Et c'est ce droit, parmi bien d'autres, que défend la majorité des altermondialistes. C'est tout. Allez, au revoir, c'était Laurent, à Herblay.
Voilà, ce message a été diffusé le 23 février 2004 sur le répondeur de la basse où j'y suis. Et l'auteur, cité par cet auditeur, a tenu avec courtoisie à donner une suite. Voici son point de vue.
Bonjour Daniel Mermet, c'est Sylvain Attal. Je vais enfin pouvoir répondre à l'auditeur qui est intervenu il y a à peu près 2 mois et qui a, à mon avis, un peu caricaturé ce que je disais à Campus et surtout le contenu de mon livre, La Plaie, chez De Noël. Alors, évidemment, je n'ai jamais prétendu que le mouvement altermondialiste était antisémite. Ce serait absolument idiot, ridicule, ni vouloir jeter le discrédit sur tous ceux qui s'en réclament. Non, je partage aussi ces remarques, d'ailleurs, sur l'usage délicat du mot antisémite accolé à une personne. Mais quand même, ce que je constate, et d'ailleurs comme lui, c'est qu'au sein de ce mouvement, manifestement à la recherche d'un second souffle, de plus en plus de gens se commettent dans une détestation systématique, radicale de l'État d'Israël, qui va, à mon avis, bien au-delà de la critique légitime d'un gouvernement et qui nourrit de manière évidente, à mon sens, le renouveau européen de l'antisémitisme. Je pense que ça concerne davantage d'ailleurs la superstructure du mouvement que son infrastructure. Et j'avoue aussi être scandalisé par la complaisance de plus en plus répandue, je ne me l'explique pas, dans ce milieu altermondialiste, envers les fondamentalistes islamiques, au nom de la liberté d'expression, comme on le sait, très bien respectée en terre d'islam. Tout ça me paraît en fait gravement entacher une très belle utopie. Sur le fond, j'estime que quelle que soit l'opinion qu'on a les uns et les autres sur le conflit israélo-palestinien, on ne doit pas accepter qu'aujourd'hui, pour être de gauche, il faille forcément être antisioniste. Aux yeux d'une écrasante majorité de juifs, l'État d'Israël, le sionisme, c'est le droit des juifs d'avoir un bout de sol à eux, de le défendre si besoin est, et cela représente la régénération concrète d'un peuple qui a été presque entièrement anéanti en Europe, que ce soit physiquement par le nazisme ou culturellement par le communisme. Dire, comme j'ai pu le lire sur le site d'Attaque par exemple, qu'Israël est le paradigme de la mondialisation libérale, avec tout ce que ça comporte de péjoratif, non seulement c'est faux, mais ça alimente dans le peuple, il suffit de relire Hannah Arendt, un antisémitisme qui est le terreau des catastrophes totalitaires de demain. Voilà, salut et merci à vous.
Voilà, c'est dit. D'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonsoir. Juste un message de tristesse et inquiet à l'annonce du départ de Monsieur Jean-Marie Cavada. Attention, France Inter, à la baisse de qualité et à la médiocrité. Au revoir. Bonne continuation à l'équipe.
Ouais, salut Daniel. C'est Gilles, 23 ans, maçon à Bordeaux. Donc j'écoute avec grand intérêt tes émissions. J'ai remarqué que beaucoup de messages commençaient comme ça. J'écoute avec grand intérêt tes émissions. Et j'ai écouté avec grand intérêt aussi tes dernières émissions sur les recalculés. Et donc je me suis dit, tiens, mais c'est vrai ça, les recalculés. Et est-ce qu'il a pensé, Mermet, à parler des contrats de calife? Alors les contrats de calife, donc ce sont des contrats pour faire des qualifications qui sont en général signées pour un ou deux ans et qui vont être supprimées donc dans le courant de l'année prochaine sans doute. Donc pour les contrats en cours, Tintin, et pour les contrats à venir, Tintin. Donc voilà. Alors les formations pour les chômeurs ou pour les jeunes en alternance, il y en aura plus, si ce n'est par le contrat d'apprentissage. Voilà, allez, salut.
On est quel jour aujourd'hui? Ben mercredi. Oh là là, j'ai toujours pas cotisé pour ma retraite. Bon, allez, arrêtez tout ça, j'ai honte. Et cessez de pourrir notre belle jeunesse. Elle a bien le temps de croire en toutes ces conneries. Nous, on a tellement de soucis avec tout ça. Et puis, j'aimerais bien que mes gosses y soient protégés. Merci pour le bon boulot que vous faites. J'appelais des Bouches-du-Rhône.
Voilà, merci pour vos messages. Je répète encore une fois le numéro du répondeur de la base, j'y suis, 01 56 40 37 37. Alors voilà, après mûre réflexion avec toute l'équipe de la base, j'y suis, on a décidé de vous dire que notre taux d'écoute a baissé. Voilà, le nombre de nos auditeurs a baissé de 1. On a un auditeur en moins, un auditeur qui nous a quitté exactement le 26 avril dernier, 26 avril 2004. C'est Monsieur Marcel. Monsieur Marcel nous a quitté pour d'autres ondes. Monsieur Marcel, vous vous souvenez sans doute de sa voix. Il était très présent sur ce répondeur. Il écoutait l'émission chaque jour. Il écoutait France Inter tous les jours. Et il faisait toujours des observations, des remarques, des remontrances, des notes et des qui étaient particulièrement savoureuses, compétentes et toujours encourageantes. 94 ans, Monsieur Marcel. Alors bien sûr, tristesse, bien sûr, émotion, spécialement parmi nous Claire Otter, qui avait beaucoup d'affection et qui a toujours beaucoup d'affection pour Monsieur Marcel, avec qui elle était en liaison permanente. Et salutations affectueuses à sa famille, etc. Mais c'est une tristesse qui va se dissiper assez vite, tant Monsieur Marcel est devenu pour nous un modèle. Un modèle, 94 ans, et jusqu'au bout, jusqu'il y a quelques jours, Claire Otter l'avait rencontré à Angers, il était toujours sur la brèche, toujours sur le pont, toujours galant, et plus même, et s'intéressant à tout. tout, absolument à tout ce qui se passait, à tout ce qui se passait de près, de loin, à travers le monde, et notant chaque jour sur ses carnets ses pensées, ses réflexions, ses expériences. Et ces carnets, il les a tenus depuis sa toute prime jeunesse. Et nous avions, il y a 2 ans, fait une émission entière sur les carnets de Monsieur Marcel. Alors aujourd'hui, puisque on a perdu cet auditeur, hommage à Monsieur Marcel. Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Auteur. Salut Marcel.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a ceux dont la vie se vit sans eux. Il y a ceux qui vivent leur vie sans la comprendre. Il y a ceux dont la vie s'éclaire par la fin. Il y a les légers, il y a les lourds, mais qui songent vraiment à son parcours. Il y a ceux qui sont toujours sur la photo, les marioles, les malins, ceux qui les roulent à la radio. Et puis, il y a ceux qui, tel Fabrice à Waterloo, passent à côté. Cela ressemble un peu à Monsieur Marcel. On comprend pas toujours tout sur le coup, mais après, un retardement, comme les bombes du même nom qui exploseront des années plus tard. Une nuit, dans le noir, on se réveille, quelque chose s'est passé, la vie tout simplement. Comme cette heure qui va passer, comme une vie qui est presque passée, qui serait un déjeuner de soleil, un déjeuner sur l'herbe, né en l'air, à la Fred Astaire. Monsieur Marcel, M, on va l'appeler, raconte sa vie, il a 92 ans, il a écrit ses carnets. À chaque instant de sa vie, il a noté tout ça. Il a pensé tout ça au moment qu'il n'était pas forcément sur le coup, mais plus tard, à reculons, tout d'un coup, il s'est rendu compte de ce qu'il avait vécu. Mais au moins a-t-il pensé sa vie un jour ou l'autre, pensé sa vie, pensé son époque. Et puis, Monsieur Marcel a été un amoureux des femmes, comme il se doit, comme on doit, et de la vie aussi. Et il a réfléchi à tout ça. Et c'est tout ça qu'il nous livre avec une désinvolture apparente, une légèreté qui dure une heure.
Alors, quel jour ? 21 novembre 2001.
Sur le chemin, je rencontre la veuve de mon copain, disparu il y a quelques ans. Elle m'embrasse chaudement. Elle est assez aguichante, cette petite bonne femme redouillarde, et quand elle m'embrasse et me serre d'un peu près, j'éprouve une sensation que je dois bien considérer comme érotique. Elle se plaint de sa solitude. « J'irai vous voir, oui, avec plaisir. » Je me doute de ce qui pourrait se passer si nous étions seuls un après-midi. Je repousse la tentation. À 91 ans bientôt, je ne vais pas multiplier les maîtresses, mais les appâts de la veuve me troublent.
Marcel, ça c'est... Mais vous êtes vraiment un être frivole. Hein?
Inconstant. Inconstant et volage. Et je ne m'améliore pas en vieillissant. Je suis né à Amiens, le 10 décembre 1910. Mon père était chef de musique militaire. J'étais là le jour du mariage de ma mère. Ça m'étonnait un peu. Ça fait une douzaine d'années. Et bien, ils étaient en avance sur leur temps. Hein. Parce qu'ils vivaient, c'était rare à ce moment-là. Très rare, parce que ma mère était d'une origine très humble. C'était, vous savez, une de ces gosses de la campagne qu'on envoyait bon à tout frère chez des bourgeois. Alors, je ne sais pas comment ils s'étaient rencontrés. Enfin, de leurs amours, j'étais né. Alors, ils se sont mariés en 1912. J'avais 2 ans. Et ensuite, nous sommes allés à Issoudun. J'ai passé toute mon enfance et la guerre 14. Jusqu'en 1919.
Vous avez des souvenirs de cette guerre de 14 ?
Oui, oui. Et je n'ai malheureusement que de bons souvenirs. Parce que j'étais enfant. de 4 ans à 8 ans. Alors, il y avait à Issoudun un grand camp militaire. Et dans ce camp militaire, sont arrivés les prisonniers allemands, qu'on appelait Bosch tout le temps. On ne connaissait que le nom de Bosch. Et puis ensuite, des Russes, parce que le tsar nous envoyait des soldats russes. On lui envoyait 100 fusils, il nous envoyait 1000 bons hommes. Alors, comme il n'y avait pas assez de fusils et 3 d'hommes, nous faisions l'échange. 100 fusils, 1000 bons hommes. Ensuite, il y a eu, je ne sais pas, des gens de couleur. À ce moment-là, les Noirs étaient tous des Sénégalais. Des fois, des Sénégalais. C'était formidable. Vous comprenez, vous voyez, un enfant qui vit à côté d'un camp comme ça. Je ne me rendais pas compte de la mort des gens.
Mais votre père, il n'a pas fait la guerre de 14?
Si. Et mon père était chef de musique, c'est-à-dire chef des brancardiers. Alors, il était tout de même protégé. Comprenez, mon père n'a jamais été vraiment dans les tranchées. Une chose me surprend quand même, c'est que mon père est revenu en permission au cours de la guerre, et lui, qui était officier, qui était un peu éloigné du front, il avait des poux. Ses vêtements étaient... Vous vous rendez compte comment devaient être les autres, hein? Ça m'avait frappé, ça.
Il écrivait à sa femme, j'imaginais.
Oui, oui.
Et dans ses lettres, il racontait
non,
pas l'horreur de
non,
la guerre.
Non, et pour moi, je lui écrivais aussi, et puis j'en ai encore des lettres, où je disais, oh papa, vivement que je sois grand pour aller me battre avec toi contre les Boches. J'écrivais ça, j'avais 8 ans. Voilà qu'on était élevé pendant la guerre 14. On était élevé pendant la haine du Boche.
Oui, c'était le patriotisme.
Oui, c'était le patriotisme, on était patriote.
Mais ça s'est quand même effondré à la fin de la guerre, non?
Non.
Donc cette conscience de la guerre de 14, de cette horreur, de cette boucherie, elle est venue bien plus tard au fond.
Elle est venue plus tard. Maintenant, je suis révolté par cette guerre. Révolté. Mais plus je vieillis, plus l'horreur de l'imbécilité de cette guerre 14 me met en colère.
Que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu, la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à grand, sur le plateau, on se fait trouer la peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en gavette. Ce sera votre tour, n'est-ce que les gros, de monter sur plateau. Si vous voulez ailleurs, ayez-la de votre peau.
En 1920, j'avais vécu la plus ignoble des guerres comme une période glorieuse, sans en ressentir les souffrances inouïes vécues par les poilus. J'avais entendu chanter les Madelons, chanson gaie, légère, qui montrait la bonne vie du combattant. Oh, que la guerre était jolie, dans la guinguette où la Madelon versait à boire. La Line chantait la Machiche, la danse nouvelle, son rythme trépidant qui rendait les filles folles. C'est la danse nouvelle, mesdemoiselles, c'est la Machiche. Bon, je ne vais tout de même pas recommencer. autant de matiches. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Et qu'en même temps, ça, je revois, je revis.
Parce qu'à 92 ans, finalement, on est un survivant, non?
Oui, oui.
C'est un peu dur de dire ça, mais...
Oui, oui, c'est vrai, je suis un survivant. Et j'ai eu beaucoup moins de la veine. À partir de 70 ans que j'ai connu l'amour. Le vrai amour. On était fous l'un de l'autre. Elle s'appelait Yvonne. Ouais. Ça a été
fulgurant.
Oh, magnifique.
Vous avez découvert la masse 70 ans.
C'est vrai? J'ai découvert l'amour, je ne sais pas ce que c'était avant. Parce que là, j'étais fou. Ça ne m'arrive qu'une fois dans ma vie. Une fois, je suis resté toujours très amateur, évidemment.
Voilà, voilà, il parle comme ça. Monsieur Marcel, et il nous a ouvert. C'est carnet, c'est un auditeur. 92 ans, et voilà, à qui étaient destinés ces carnets? À lui-même, il écrit merveilleusement bien, c'est précis, c'est un trésor, comme ça. Et on se demande quand même, on se dit, mais dans ce pays, il y a d'autres Marcel, il y a de futurs Marcel, et c'est toute une richesse extraordinaire qui nous console quand même. Et puis voilà, on se dit les uns et les autres, là, ben, ça nous laisse du temps, hein. Ça, le temps s'allonge quand on écoute Marcel. Et puis il s'épaissit, il prend de la densité, il prend de la sensualité, il prend ce goût du libertinage et de l'amour, bien sûr, qui fait les hommes vraiment révoltés. Les hommes vraiment révoltés sont nécessairement des amoureux. Et cette nécessité-là, eh ben, elle pourrait presque résumer la vie de Marcel tel qu'il l'a raconté à Clairotère.
Comment est-ce que vous étiez, vous, jeune homme?
Mais j'étais un jeune homme très naïf, très candide, très respectueux des femmes, des filles. Les filles étaient pour moi des êtres à part.
Mais enfin, vous n'êtes pas resté vierge jusqu'au mariage?
Non.
Vous n'êtes pas resté bien jusqu'au mariage, quand même.
Non, j'ai raconté ça 36 fois. J'avais 17 ans. Alors on était une bande de jeunes gens, pendant les vacances. On se réunissait chez une dame.
Chez une dame?
Une dame mariée. Et alors cette dame me dit un jour, il faut revenir tout seul.
Elle avait quel âge, cette dame?
Elle avait une quarantaine d'années.
Enfin, une vieille, quoi.
Oh, oui. Elle est sortie de sa salle de bain avec une robe de chambre. Elle m'a dit, aime-moi, mon chéri.
C'est le blé en herbe, ça?
Oui, c'est le blé en herbe.
Vous devenez instituteur, vous avez quel âge quand vous êtes instituteur?
18 ans.
18 ans.
Oui, j'avais pas encore 19 ans. Mais j'étais tellement heureux d'être instituteur de campagne.
Vous étiez institutrice aussi.
Alors, il fallait se marier. Mmh. On n'aurait jamais... Ça aurait été la honte, ouais. L'abomination.
Ouais, ouais. Surtout pour un enseignant.
De vivre sans être marié, ouais, avec l'institutrice.
Quasi impossible,
oh,
j'imagine.
Non, mais non.
Mais alors, en tant qu'instituteur comme ça, dans une toute petite commune, vous êtes un notable.
C'est le roi, le dieu. J'étais Dieu.
Vous auriez pu devenir un homme politique?
Oui, mais j'aurais eu horreur de ça.
Alors, cette petite école, vous avez combien d'élèves, là?
Eh bien, j'en avais 35 dans la mienne. Imaginez-vous, 35 ans, de 4 à 14 ans. Il y avait une grande différence, voyez-vous. Dans les fermes, les fermiers, ils ne fichaient rien. Hein. Ils avaient des domestiques agricoles très mal payés et très malheureux. Hein. Il y avait des gosses de l'assistance aussi. Mmh. Je vois un gosse qui arrive, il n'était pas allé à la veille à l'école. Je lui dis, pourquoi tu n'étais pas là hier? Eh bien, on l'habillait chez ma tante. On l'habillait chez ta tante. Qu'est-ce qu'on faisait? Pourquoi t'habillais? Ben, on tuait le cochon.
Ah.
Habiller, ça veut dire tuer le cochon.
Ah bon?
Oui. On en joue. J'ai même vu arriver des enfants qui n'étaient pas sortis de leur ferme. Ils venaient dans le bourg, comme on disait, dans l'agglomération, pour la première fois de leur vie. Mais, ouais, j'étais gentil avec eux, mais enfin, je donnais une claque facilement, hein, à un gosse moral. Mais pas à des gosses qui avaient des difficultés, à des intelligents, qui rigolaient, ou qui n'écoutaient pas. Comment ça écoute pas? Pom, hein. Mais, aujourd'hui, ils ne le feraient plus, hein.
Ouais.
Je vous dis, je me conduisais comme l'instituteur de la Troisième République. Chante 536.
Ah oui. 36 a été votre moment de gloire.
L'été 36, ça c'est la plus belle partie de ma vie. On était fous de joie. Les premiers congés, les gens qui n'avaient jamais sorti. C'était beau, hein. Alors les bourgeois disaient, on va les payer à rien foutre. On va les payer à rien faire.
Vous êtes restés des citoyens.
Puis alors quand ils ont vu arriver sur les plages des ouvriers, sur les plages qui étaient réservées aux gens.
La haute.
Oui, c'était honteux.
Vous avez vu ça, vous? Vous êtes allé sur les plages?
Ah oui, moi j'ai vu ça. Enfin, moi j'appartenais déjà à une plus aisée, quand même. Hein. J'étais pas.
Mais de cœur, vous étiez avec eux?
Ah oui, 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 à fond. À fond, à fond. Je croyais que c'était rien.
Vous sommes en tirant sur nous, assassinés la République.
Je fais ça en 36. Et ça m'émeut encore. C'était bien 36. On défilait dans la rue, on chantait l'International. La jeune garde, elle descend sur le pavé. Les soldats du 17e. Puis après, il y a eu la guerre d'Espagne. Voilà. Ça, c'est resté sur l'estomac. La guerre d'Espagne. Oh, ça c'est terrible, hein. J'ai admiré les brigades internationales. Ces gens qui sacrifient leur vie, comme ça, pour la liberté. C'était beau, hein.
Ouais,
c'était plus courageux que moi. Ouais.
Profundamente agradecida de la expresión de solidaridad del pueblo francés para con el pueblo español. Que el pueblo francés no olvide que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia.
Thank you.
trop sensible. C'est vrai. Je devrais être plus raisonnable.
Allez. Évidemment, il ne croit pas ce qu'il dit. Ça, c'est le genre de phrase à laquelle il ne croit pas un seul instant. Ce qui est vrai, c'est qu'il est sensible, trop sensible. Oui, en tous les cas, très vivant, très fin, très malin aussi. Très séducteur avec cette vie qu'il a aimée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et ça arrive, la preuve, on est là avec cet homme de 92 ans qui ouvre sa maison, qui ouvre son carnet, les pages de sa vie, et puis sa mémoire, et puis les clichés, aussi de notre histoire commune de ce siècle passé, qui se mêle à ses souvenirs à lui. Et très souvent, entre les clichés qui marquent les grands moments de notre histoire, là on évoque la guerre d'Espagne rapidement, évidemment, et sa vie à lui, son parcours à lui, il fait la différence. Il sait très bien qu'il n'était pas toujours sur la photo, même assez rarement sur la photo, comme celui qui dit j'ai manqué ma vie, mais ça n'empêche pas de penser son époque, d'aimer, d'avoir aimé son époque, et puis d'avoir tout aimé, semble-t-il, dans la vie. C'est une élégance extraordinaire de nous apparaître comme ça, sans trop de remords, sans trop de regrets, et s'accrocher, comme il le dit, à l'espérance. Et puis s'étonner après ça qu'on vous aime. C'est ce qu'il dit, monsieur Marcel. Les gens sont gentils avec moi, je me demande pourquoi.
Vous vous mariez, mais j'ai l'impression que c'est sans enthousiasme.
En vérité, oui. Pour moi, c'était comme une espèce de devoir.
Déjà, dès le départ.
Oui, dès le départ. Et toute ma vie.
Toute votre vie.
Oui. C'est mal de dire ça. Je dis la vérité.
Vous êtes resté marié combien de temps?
70 ans. 70 ans. Ma femme est morte il y a 2 ans. Mais toujours attachée à moi.
Parce qu'à l'époque, on ne divorçait pas.
Mais non, on ne divorçait pas. Pour moi, ce n'était pas possible de divorcer. Pendant la guerre, à Reims, j'ai connu une petite jeune fille. J'étais gestionnaire de l'hôpital. Je dis, gestionnaire, j'étais lieutenant.
Là, vous ne preniez pas la guerre très au sérieux à ce moment-là.
On n'y pensait plus. La vraie guerre a commencé le 10 mai, je n'ai rien vu.
Ah, oui.
Je n'ai rien vu.
De 39 à 45, vous n'avez rien vu.
Oui, rien vu. Ça peut paraître étonnant, hein. Ce 23 novembre 1939, nous étions allés faire des courses à Reims. Je me trouve devant une jeune beauté, radieuse, un éblouissement. Et c'est ainsi que naquit le grand amour de ma vie, et que je célèbre encore par une azalée adressée à Yvonne.
Ah, c'est Yvonne que vous avez rencontrée dans ces circonstances.
Voilà. Oh. On s'est revus 40 ans après.
Vous sortez une photo de votre portefeuille? Ah oui, elle est ravissante.
En 1980, je savais qu'elle tenait un salon de coiffure. Je vois le numéro sur le... Puis j'appelle. Elle me dit, c'est toi? 40 ans après. Alors on s'est revus. Et alors là, c'était le grand amour.
Le coup de foudre à nouveau.
L'amour fou.
C'est vrai.
L'amour fou. J'étais fou. Nous dansions à l'Eldorado sur le boulevard Magenta, près de la gare de l'Est. La lumière de la salle était tamisée, un gros globe à facettes tournait au plafond. Nous nous asseyions sur une banquette dans l'ombre. Nous étions les enfants qui s'aiment. Non, ce n'était pas ridicule. J'avais 70 ans, là. Nous n'avions plus d'âge. Nous nous serrions l'un contre l'autre, les mains enlacées. Nos regards se caressaient, se parlaient d'amour. nos lèvres se prenaient dans l'ombre. Les piliers de verre envoyaient l'image de nos corps enlacés. Étourdis, nous sortions sur le boulevard. L'hôtel n'était pas loin. Nous pressions le pas dans la hâte de nous aimer, dans l'ivresse du dernier soir.
Alors en 47, vous avez rencontré Lisette et puis ça a été un grand amour platonique.
Platonique, mais des esprits. L'amour des esprits.
C'est un véritable roman, votre journal.
Oui. Mmh. Et alors elle dit, oh, tu sais, on a toujours été très bien. Alors je dis, je vous embrassais. Tu ne te défendis pas. Après la classe, je partais en vélo dans la nuit d'hiver pour passer quelques minutes avec toi. 11 kilomètres. Nous nous embrassions, nous rions, et il me semble bien, quoi que tu t'en défendes, qu'un soir tu défies ma ceinture. Oh ! Le manque de temps, l'environnement peu propice, nous évitèrent d'être amants, et nous restâmes amoureux, regrettant de n'avoir pu nous marier.
Chansons qui ont compté dans votre vie.
Oui, par exemple ça, le pont Mirabeau.
Vous pouvez me faire écouter ?
Oui. C'est beau ça.
Sous le pont Mirabeau.
Qui est-ce qui chante ?
Ferry.
Je dirais jeune alors, hein.
Et nos amours faut-ils qu'ils m'en souviennent.
Vous aimiez danser ?
La joie venait toujours après la peine.
Mais pas seulement pour la danse. C'est beau, hein ?
C'est beau. C'était pour quoi ? C'était pour sentir le corps d'une femme ?
Oui. Ses yeux. Les yeux des femmes plaisent beaucoup.
Tandis que sous le pont.
Je suis trop sensible. C'est vrai ?
Des éternels regards longs de silence.
Je devrais être plus raisonnable.
Vienne la nuit. Sonne l'heure, les jours s'en vont.
Vous seriez mort si vous étiez raisonnable.
Peut-être, oui. Peut-être.
L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Soixante-dix ans de mariage.
Oui.
Et puis depuis, vous vous brûlez le torchon par les deux bouts.
Voyez-vous, quand ma femme est décédée à 90 ans, facilement, j'ai pleuré. Hein, mais en même temps, ça a été une libération. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Comment expliquer le plaisir intense que j'ai ressenti ce matin à l'appel de Lisette. Je la croyais déçue de mes relations avec Dominique. Et Gabi, la plus sincèrement amoureuse, la seule qui, depuis 1946, provoque mon désir charnel le plus violent. Reste Yvonne, la nostalgie de l'amour fou, un feu qui couve toujours sous la cendre, un souvenir merveilleux que le temps n'efface pas, mais embellit plutôt. J'aime beaucoup les femmes. Non, mais je pourrais m'en passer. Je pourrais très bien vivre chaste sans être tourmenté par des désirs quelconques.
Ah oui ?
Ah oui, ça vraiment. Je pourrais très bien vivre seul et puis sans femme, seul. C'est vrai, non, c'est vrai.
Vous êtes en train de me dire que ce sont les femmes qui viennent à vous ?
J'ose pas le dire. Non, je sens bien quand ça se sent, quand on peut.
Elle frappe discrètement à la porte.
Voilà.
Une déclaration. C'est pas sérieux du tout, hein. C'est pour moi ? Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire ? Vous avez de beaux yeux ? C'est pas sérieux, Marcel, hein? Vous avez de beaux yeux, à 40 ans, j'aurais été amoureux de vous. Oh, qu'est-ce que vous avez écrit après?
Rien.
Bonjour, Maria.
Bonjour, monsieur.
J'aurais été amoureux de vous?
Oui.
Qu'est-ce qu'il écrit après?
Au sens.
Au deux sens. Qu'est-ce que vous entendez par là? Aujourd'hui j'ai 92 ans. Ben oui, je sais, vous avez 92 ans. Heureusement, j'ai 92 ans. Ah là là, mais vous me faites du genou sous la table en plus, non. Hein? Non, c'est moi. Vous êtes incorrigible, hein? Ah oui, un amoureux incorrigible.
Vous n'avez pas écouté?
Oh si, je l'ai écouté.
Nous qui désirons sans fin, voilà ce qu'on pourrait dire de Marcel, celui qui désire sans fin, mais qui nous ressemble beaucoup parce que nous désirons sans fin que nous en ayons les moyens ou pas. Une rencontre heureuse, hein, une heure heureuse, que cette heure passée avec cet auditeur qui avait laissé un message, c'est pas le seul d'ailleurs qu'il a laissé, c'est toujours pertinent, et ce qui nous plaît toujours, c'est qu'il, encore une fois, c'est qu'il dit, ben, j'étais pas là, mais je sais que ça s'est passé, tel événement de l'histoire, ça change quand même de tous ceux qui vous racontent qu'ils étaient sur la photo. Ça me rappelle le bouquin merveilleux de Topor qui s'appelle Les Mémoires d'un vieux con. Et le vieux con, c'est ce personnage qui est absolument partout, qui a connu tout le monde et qui était aussi bien avec André Breton qu'avec Trotsky, qu'avec avec Freud, comme avec De Gaulle. Et c'était un personnage très comique. Et c'est un petit peu ça qu'on entend à longueur de micro, à longueur de radio, à longueur de médias. Et là, non. C'est un homme qui avait un pas de côté, mais c'était un pas de danse, et c'était un pas d'amour, et c'était un pas de réflexion, et c'était aussi, évidemment, un pas de passion. Mais à la fin de sa vie, il préfère s'en aller légèrement, un peu en bulle de savon.
Au fond, l'amour, c'est quelque chose qu'on prend peut-être trop au sérieux, non ?
C'est difficile d'avoir un jugement sur l'amour. C'est difficile. Et puis, quelquefois, on aime, on dit qu'on aime. Est-ce que c'est l'être lui-même qu'on aime ou l'amour lui-même ? Hein ? Souvent, même avec Yvonne, je me le pose. Parce que c'était une... Je l'aimais passionnément, mais il n'avait pas mes idées. Il n'avait pas mes goûts. On n'aurait pas pu vivre si on avait vécu conjugalement, ça aurait été une catastrophe.
On en revient toujours à cette définition de l'amour, quoi. C'est un peu pauvre comme terme.
Oui, oui. Oui, parce qu'il y a des nuances tellement extraordinaires.
Il faudrait inventer d'autres mots.
Oui.
Un vocabulaire amoureux.
Oui. Oui.
Je crois que vous seriez tout à fait désigné pour faire ça.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.
C'est contraire un peu à ce qu'on dit.
C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'y croire.
Il y a beaucoup de vieilles gens qui renoncent à l'amour. Ils disent, oh, ben maintenant c'est fini. Notre âge, c'est terminé. Moi, j'ai jamais cru ça. Je me cramponne toujours à l'espérance. Et puis, je dois dire que les gens sont très gentils avec moi. Et je me demande pourquoi. Au fond, on aime que les gens vous aiment. Hein? On est sensible. On aime bien être aimé, l'enfant. J'avais beaucoup plus peur de la mort à 50 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'en ai plus peur. Oui, c'est bizarre. Avant, tout réside dans la sensation. Alors quand ces sensations disparaissent, ben, tout disparaît aussi. Hein? Je vois ça comme ça. Hein? Je crois que je vais m'endormir en quelques temps. Puis je finis.
c'est ce qui s'est passé, monsieur Marcel s'est endormi donc ce lundi 26 avril à l'âge de 94 ans. Oui, notre cher Marcel nous a quittés, on l'entendra plus sur le répondeur de là-bas si j'y suis. À chaque fois c'était un bonheur, c'était un plaisir, c'était un sourire, et puis des fois il n'était pas content. Je me souviens, un jour il avait engueulé parce que j'avais parlé je sais plus quoi des petits gars de Géorgie qui avaient débarqué sur les côtes lors du débarquement. Et alors il trouvait que j'avais été trop loin dans la critique des Américains. Alors il avait fait tout un... C'était vraiment un homme merveilleux. Merci. Et puis surtout, c'est un modèle pour tous. C'est un modèle absolument pour tous. C'était un hommage donc et un reportage de Claire Auter qu'on avait diffusé une première fois le 11 février 2002. Technique aujourd'hui, Patrick Henry et Benjamin Lagatinet. Montage, Guy Vantil et Yann Chouquet. Réalisation Antoine Chao, Coyenne Guyen et Christophe Imbert nous assistent. Et le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Très calme.